Amen. Vous savez, quand on regarde l'actualité de ce dernier temps, c'est une actualité très riche. C'est une actualité aussi qui peut inquiéter. Parce que le monde est comme en plein émoi, en pleine agitation, en plein questionnement. Et je pense que les enfants de Dieu que nous sommes devaient revenir aux fondamentaux de la foi afin de se ressourcer, afin de se sécuriser, d'être apaisés et d'affronter ce monde en pleine agitation avec sérénité. Nous devons nous souvenir toujours que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin, comme dit Lamentations 3, 22 à 23. Et parmi les passages dans les Saintes Écritures, nous allons voir que il y a des livres, il y a des portions d'écriture qui nous apportent la quiétude, qui nous apportent l'espérance, qui nous apportent l'espoir, l'assurance. Et le psaume 23 est un de ces passages, un de ces livres, le psaume 23. Ce psaume, en fait, insiste sur la relation privilégiée que les enfants de Dieu ont avec leur Père. Cette relation privilégiée que chacun de nous a avec son Dieu. D'où le titre de ce message ce matin sera L'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger. Je pense que je pourrais finir mon message tout simplement, et parce que c'est tout simplement suffisant de déclarer que l'Éternel est mon berger. Mais je veux vous inviter d'aller un peu plus en profondeur dans ce psaume 23 que je m'en vais vous lire. Cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages et me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Quelle déclaration! Quelle déclaration! Nous allons partir et explorer ce texte en trois parties. La première partie, ce sera les deux premiers versets. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Le bon berger veille sur son troupeau. Nous sommes le peuple de Dieu. Nous sommes le troupeau de Dieu. Et notre Dieu veille sur son peuple. Il est notre bon berger. Le Seigneur Jésus dira à ses disciples que ses brebis reconnaissent sa voix et que ses brebis ne suivraient pas un étranger. dans Jean 10, des versets 27 à 28. « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. » Voilà ce que déclare le Seigneur Jésus. C'est lui le bon berger. Le bon berger. Il reconnaît chacun de ses brebis. Il reconnaît chacun de ses brebis. Le Seigneur Jésus reconnaît chacun de vous. Chacun de vous est reconnu par le Seigneur. N'en doutons pas. Oui, le Seigneur est le bon berger qui prend soin de façon particulière de ces brebis que nous sommes. Et en plus, il ne prend pas seulement soin. Il déclare que je ne manquerai de rien. Avec le bon berger, nous ne manquerons de rien. Notre Dieu assure la provision de ses enfants. Il assure la provision, n'en doutons pas. D'où son nom, Jéhovah Jiré, celui qui pourvoit. Amen. Le Seigneur Jésus demande à ses disciples de rechercher premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes les autres choses leur seront données par-dessus. Dire qu'il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Oui, cherchons premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et les autres choses seront comme de la, on va dire, cerise sur le gâteau. Le psalmiste, quant à lui, dans le psaume 37, au verset 25, va déclarer ceci, toujours pour insister que notre Dieu est le Dieu de la provision. Il est Jéhovah Jiré. Il va déclarer ceci, « J'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. » Oui, le Seigneur est fidèle. C'est le Dieu de la provision. Cherchons premièrement le royaume des cieux et les autres choses. La provision viendra au-dessus. Il est aussi dit, « Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. » Le Seigneur a formé pour chacun de ses enfants des projets de bonheur. Il a prévu pour nous de verts pâturages. Ces verts pâturages où nos âmes seront tout simplement en repos. En plus, le Seigneur voudrait diriger chacune de nos vies. Diriger chacune de nos vies. Et c'est au travers de la parole de Dieu que le Seigneur voudrait diriger nos vies. D'où cette nécessité de se plonger encore et toujours dans la parole de Dieu, de façon suivie. Parce que quand on est en face de la parole de Dieu, c'est là que le Seigneur nous parle. C'est ça, là que le Seigneur nous dirige. Et le psalmiste dira encore dans le psaume 119, au verset 105, ceci, « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon chantier. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon chantier. » Voilà, oui, l'Éternel voudrait diriger, n'est-ce pas, nos vies, afin de nous mener vers les eaux paisibles. La deuxième partie, ce serait juste un verset. C'est le verset 3. Il restaure mon âme. Il restaure mon âme. L'Éternel restaure l'âme. Il conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. L'Éternel restaure mon âme. Et l'âme, qu'est-ce que c'est? L'âme, c'est le siège de nos émotions. Tout est à l'intérieur. Et le Seigneur vient restaurer notre être intérieur. C'est ce que nous ressentons au fond de nous-mêmes. Il n'y a que nous qui ressentons ces choses. Personne d'autre ne les ressent, sinon le Seigneur avec nous. Ce que nous avons ancré au fond de nous, c'est ça, l'âme. Vous savez, aujourd'hui, quand on regarde les statistiques, les consultations chez les psychologues ont atteint des pics parce que l'âme, de plus en plus, est troublée. L'âme des hommes est de plus en plus complètement, n'est-ce pas, attaquée. Et bien sûr, les chrétiens ne sont pas épargnés. Nous, les enfants de Dieu, nous ne sommes pas épargnés. Donc, le Seigneur nous tend la main. Si ce matin, vous êtes troublés, si ce matin, vous avez l'âme abattue, si ce matin, vous savez plus d'où donner de la tête, le Seigneur vous dit, je suis là. Car je restaure l'âme abattue. De même que le corps peut être blessé, l'âme peut aussi en être autant. L'âme peut être malmenée, déchirée, abattue. Et quand l'âme est malade, notre corps finira par l'être aussi. Donc nous devons prendre soin, permettre au Seigneur de prendre soin de notre âme. Car il s'occupe de manière particulière de notre âme, comme il s'occupe aussi de notre corps et de notre esprit. Et il restaure l'âme de façon durable. Il ne fait pas des pansements de surface. Il va aller en profondeur. Et quand l'âme sera restaurée, nous pourrons dire comme David, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Dans le psaume 103, verset 2, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Oui, c'est dire que lorsque le Seigneur restaure l'âme, la paix profonde va remplacer l'agitation intérieure. La joie va remplacer la tristesse. La quiétude va remplacer l'angoisse. Le calme, la sérénité va remplacer la peine et le ressentiment. Voilà ce que le Seigneur peut faire. Et je dirais même que le Seigneur fait. Amen. Il restaure mon âme. Il restaure mon âme. Il me conduit. Il me conduit. Oui, le Seigneur voudrait conduire sur les sentiers de la justice. Il voudrait conduire chacun de ses enfants sur le sentier de la justice. En plus de diriger, le Seigneur voudrait conduire. Quelle différence y a-t-il entre diriger et conduire? Diriger, en quelque sorte, c'est montrer le chemin, c'est être le guide. Mais conduire, c'est être au contrôle. À l'exemple, je veux dire, quelqu'un, quand vous montez dans la voiture de quelqu'un qui vous conduit, c'est le chauffeur qui vous conduit. Quand vous montez dans un train, un TGV, qui vous conduit? Quand maman vient de Paris, dans le TGV, c'est le conducteur du TGV qui vous conduit. Quand vous montez dans un avion, c'est le pilote, n'est-ce pas, qui vous conduit. Le Seigneur, certes, veut continuer à nous guider, mais il voudrait surtout nous conduire. Il voudrait que nous puissions lui confier le contrôle de notre vie, dans tous les domaines. Vous savez, ce que le Seigneur propose, ce n'est pas juste une religion, c'est une vie, un programme de vie. C'est ça que le Seigneur propose. Ça veut dire que nous devons lui laisser être au contrôle de nos vies dans tous les domaines. J'ai l'habitude de mentionner ici pour les jeunes et les moins jeunes, ceux qui aspirent au mariage. C'est un des domaines où il faut faire très attention parce que si nous faisons un choix qui est en dehors de ce que Dieu a prévu pour nous, nous pouvons toujours, après coup, demander à Dieu de bénir. Mais est-ce que ça marchera? Je ne pense pas. Je pense que dans tous les domaines de notre vie, nous devons remettre, tout remettre entre les mains de Dieu. Amen. Oui, le Seigneur doit être au contrôle de nos vies. Il doit être celui-là qui conduit nos vies. Bien sûr, il nous guide, mais il doit être au contrôle. Il est le bon berger. Et s'il est le bon berger, si nous voulons qu'il nous mène à destination, nous devons lui remettre la clé. Nous devons lui laisser la place et toute la place afin qu'il puisse nous mener à destination. Il est aussi dit que Dieu voudrait nous conduire dans les sentiers de la justice. Les sentiers de la justice, en fait, c'est la vie chrétienne en elle-même. Et c'est un sentier quelquefois difficile, souvent jonché d'embûches. Si le Seigneur n'est avec nous, nous ne pouvons réussir à marcher dans les sentiers de la justice de Dieu. Et qu'est-ce que marcher dans les sentiers de la justice de Dieu? C'est mener, avant tout, une vie de sanctification. La parole de Dieu dit que sans la sanctification, nul ne verra Dieu. C'est mener une vie d'amour avec les deux. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu et tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est une vie de bonté à l'image de notre Dieu. C'est une vie de don de soi. C'est une vie de sacrifice. C'est une vie de compassion. C'est une vie de service. Service par rapport à ce que Dieu nous appelle à faire. Qu'est-ce que le Seigneur nous appelle à faire? Une vie de service. Une vie aussi, bien sûr, de service, parce que nous sommes les serviteurs les uns des autres. C'est une vie de pardon. Une vie de pardon. Vous savez, le pardon est au cœur de la vie chrétienne. Si on n'a pas de pardon, on ne peut pas avancer avec Dieu. Nous devons cultiver le pardon. Ce n'est pas souvent facile de pardonner quand nous avons été meurtris, quand nous avons été rabaissés. Ce n'est pas souvent facile de pardonner. De nous-mêmes, quelquefois, c'est presque impossible au vu de la gravité de ce que nous avons subi. Mais la bonne nouvelle ce matin, c'est que le Seigneur donne le moyen de pardonner, la force de pardonner. Amen. C'est une vie aussi de patience. Vous savez, dans notre siècle, on ne sait plus patienter. Tout est minute. Mais la vie chrétienne est une vie de patience. Patience par rapport à Dieu lui-même. Parce que quelquefois, le Seigneur va nous dire, patience, mon fils. Patience, ma fille. Je le ferai, mais patience. C'est une vie de patience. Que le Seigneur développe en nous la patience. C'est vrai que c'était un ambitieux programme que de marcher dans les sentiers de la justice. Mais nous pouvons y parvenir si nous laissons l'Éternel au contrôle de toutes choses dans notre vie. La troisième partie de cette méditation, ce sont les versets 4 à 6. C'est un peu plus long, je vais le lire. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu ondules ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Comme nous l'avons déjà mentionné un peu plus haut, la vie chrétienne est pleine d'embûches. Chaque chrétien va traverser à un moment ou à un autre par des épreuves dans sa vie. Il faut tout simplement savoir que ces épreuves pourraient avoir plusieurs causes. Ça peut être du fait des hommes, par des persécutions, par de la méchanceté des hommes. Ça peut aussi être de notre propre fait. Vous savez, quand nous marchons avec le Seigneur, nous avons comme une bulle de protection autour de nous. Et cette bulle de protection nous protège contre les attaques, contre les agressions extérieures, spirituellement parlant. C'est une image. Mais malheureusement, ces bulles peuvent avoir des brèches. Et qu'est-ce qui occasionne ces brèches? Le péché. Donc, chaque fois que nous sommes dans une démarche de désobéissance par rapport à la parole de Dieu, ça crée comme des brèches dans cette bulle de protection que le Seigneur a mis autour de nous. Et je pense que chaque fois qu'on se rend compte que nous avons fauté par rapport à Dieu, la chose à faire, c'est de courir auprès du Père et faire une démarche de repentance, tout simplement. Troisièmement, ces épreuves peuvent aussi venir de Dieu lui-même. Attention, Dieu peut envoyer des épreuves. Vous connaissez l'histoire de Job. Il a eu des épreuves terrible. Mais c'était permis par Dieu. Donc ça veut dire que le Seigneur peut aussi permettre un certain nombre de choses, tout simplement pour forger notre foi, pour créer en nous, développer en nous le discernement, la patience, la foi. Vous connaissez cette histoire de l'aveugle-né, quand il a été guéri, et les disciples sont venus auprès du Seigneur Jésus pour dire, mais ce jeune homme, pourquoi est-il né aveugle? Est-ce parce que ses parents avaient péché? Ou peut-être parce que lui-même il avait péché? Le Seigneur Jésus a dit non, ce n'est pas parce que les parents ont péché, ce n'est pas parce que ce jeune homme avait péché. C'était tout simplement pour que le nom du Seigneur soit glorifié à un moment donné. Parce que Jésus devait passer par là et devait guérir cet aveugle-né. Oui, ce que nous devons savoir, c'est qu'au cœur de l'épreuve, c'est le Seigneur lui-même qui combattra pour nous. Les épreuves peuvent venir, mais les épreuves ne viennent pas pour rester. Les épreuves viennent pour passer, parce que le Seigneur combattra lui-même pour nous. Et j'aime bien cette phrase que Moïse, en son temps, avait dit au peuple d'Israël, pendant qu'ils étaient acculés, il y avait l'armée de Pharaon derrière et la mer Rouge devant. Ils étaient acculés. Ils ne savaient plus quoi faire. Et Moïse leur a dit, l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Dans Exode 14, je ne sais pas dans quelle situation vous êtes ce matin. Peut-être que vous êtes comme le peuple d'Israël ce matin. Vous ne savez plus où donner de la tête. Vous avez la mer Rouge devant vous et vous avez derrière vous l'armée de Pharaon. Le Seigneur voudrait vous dire tout simplement qu'il combattra pour vous. Gardez le silence. Cette parole est plus que d'actualité. Amen. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Le Seigneur a préparé pour toi des bénédictions de tout genre. C'est pour ça qu'il dit, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Mais, es-tu au rendez-vous? Mènes-tu la vie qui permet de déclencher les bénédictions de Dieu dans ta vie? Es-tu où le Seigneur voudrait que tu sois? Fais-tu ce que le Seigneur souhaiterait que tu fasses? Ésaïe 59, au verset, les versets 1 à 2, dit ceci. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cache sa face et l'empêche de vous écouter. Oui, la main du Seigneur voudrait bénir ce matin. Il veut faire descendre sur vous les écluses des cieux. Il voudrait que vous puissiez lui donner la clé, n'est-ce pas, de votre vie. Être au contrôle. Il voudrait être au contrôle afin de vous mener près des eaux paisibles. Vous savez, Dieu a déjà tout prévu. La balle est de notre côté. La balle est de ton côté. Oui, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Soyez bénis. Amen.